de Florence Paracuelos. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. La solitude d'un homme et d'un peuple à la une. Volodymyr Zelensky à la tête d'un pays envahi et bombardé par la deuxième armée du monde depuis hier. L'Ukraine à l'aube d'un deuxième jour de guerre. C'est Kiev, la capitale dont les troupes russes se rapprochent dangereusement. C'est l'exode de milliers d'Ukrainiens vers la Pologne ou la Hongrie. C'est aussi la mobilisation générale, les sanctions contre la Russie, nouvelle salve américaine et européenne, la duplicité de Vladimir Poutine dénoncée par Emmanuel Macron, la campagne électorale en France presque gelée par la guerre et les cours des matières premières qui flambent. On va balayer tout ça dans ce journal avant un grand entretien lui aussi consacré à cette offensive d'un État contre un autre du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.
Oui, notre invité, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, au micro d'Inter dans une bonne vingtaine de minutes. J'attends, amis auditeurs, vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
France Inter. C'est un homme seul qui s'adresse à son peuple assiégé depuis hier. Volodymyr Zelensky, président ukrainien dont le Kremlin veut la tête. Le monde entier est avec lui, on va l'entendre, mais son armée est faible face à celle de Poutine. Et ni les Européens, ni les Américains ne viendront se battre sur son sol. Voilà, ce matin, nous défendons notre pays tout seul. Les plus grandes forces mondiales regardent ça de loin. On l'entend, c'est un président sous pression maximale qui a de nouveau pris la parole dans la nuit. Qui est prêt à combattre avec nous, demande-t-il. Je ne vois personne. Tout le monde a peur. L'ennemi m'a identifié comme la cible numéro un, mais je resterai à Kiev. Voilà pour ce message diffusé sur les réseaux sociaux, comme Zelensky en a produit toute la journée d'hier, cette nuit et ce matin encore. Il ordonne la mobilisation générale des conscrits et des réservistes. Cela suffira-t-il face à la puissance de feu de l'armée de Vladimir Poutine? Les troupes russes sont entrées par la Biélorussie au nord, par le sud depuis la Crimée, par l'est en direction de Kharkiv. Des tirs de missiles auraient touché Kiev à l'aube. Bonjour Eric Biegala.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter dans cette capitale de l'Ukraine. Les troupes russes, Eric, ne sont déjà plus très loin.
Non, elles ne sont plus très loin, mais effectivement, la capitale a été touchée, a été ébranlée par plusieurs explosions tout à l'heure. Hein, il était 4h, 4h30, un bombardement aux missiles de croisière. L'un des vecteurs, au moins, a été intercepté par les défenses antiaériennes ukrainiennes. Et en tombant, le missile a touché un immeuble d'habitation dans le district de Darninsky, sur la rive orientale du Dniepr, causant un incendie dans un immeuble de 9 étages. Tout à l'heure, le maire de Kiev précisait que ce bombardement avait blessé 3 personnes dans l'immeuble, dont l'une serait dans un état critique. La capitale ukrainienne est effectivement bel et bien sous pression. La contre-attaque ukrainienne la plus significative de la journée d'hier, c'est sans doute la reprise de l'aéroport d'Ostomel. Celui-ci, juste à la sortie de Kiev au nord-ouest, avait été pris d'assaut par plusieurs centaines d'hommes des forces spéciales russes arrivés sur place en hélicoptère hier à la mi-journée. Dans la soirée, ils étaient complètement défaits par la contre-attaque ukrainienne. Près de 200 soldats d'élite russes tués ou faits prisonniers. Mais la bataille n'est pas terminée. Ce matin, deux nouvelles colonnes de blindés russes progressent vers la capitale par le nord-ouest d'abord. Une colonne de chars venue de Biélorussie, elle se trouve à 70 km environ, près de la petite ville d'Ivankiv. Une autre colonne de chars arrive par l'est et les défenseurs ukrainiens risquent d'avoir fort à faire pour les empêcher d'atteindre ces faubourgs. Comme disait tout à l'heure un adjoint du ministre de l'Intérieur, la journée d'aujourd'hui risque d'être la plus difficile.
Éric Biegala en direct de Kiev pour France Inter. Cette nuit, le président Zelensky signalait aussi l'arrivée de groupes de sabotage russes dans la capitale. Il affirme que l'armée de Vladimir Poutine vise des zones civiles, 137 mort selon son dernier bilan, et une zone particulièrement sensible qui serait tombée aux mains des Russes. C'est la centrale de Tchernobyl, à moins de 150 km au nord de Kiev. Zone hautement contaminée depuis l'accident nucléaire de 1986. L'état de la chape qui isole le réacteur accidenté est inconnu, selon la présidence ukrainienne. Mais le site abrite aussi des piscines de combustible usagé, d'où l'inquiétude de cette haute responsable de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en France, Karine Hervieux. Jointe par Sophie Becherel.
Le danger, c'est qu'il y a une quantité de matière radioactive qui est très importante sur ce site. Et donc, le fait que le pays soit en guerre, effectivement, nous préoccupe beaucoup, puisqu'on peut imaginer un risque d'accident lié à des attaques ou des armes lourdes qui tomberaient sur certaines parties du site. Oui, c'est préoccupant. s'il y a un incendie, ça peut conduire effectivement à relâcher des substances radioactives dans l'air, pourquoi pas.
S'il y a un danger de radioactivité et d'un nuage, comment est-ce qu'on va le savoir?
On saura d'abord par, alors soit par une information qui serait donnée par l'Ukraine ou la Russie, et ensuite on le saura par les mesures qui sont faites dans l'environnement, les réseaux de balises qui retransmettent les données automatiquement. Donc en France, on en a un certain nombre sur le territoire, et donc ça permettra de détecter l'arrivée d'un nuage sur le territoire français, et je suppose qu'on sera alerté bien avant, puisqu'on a des accords avec d'autres pays situés entre l'Ukraine et la France, et on s'échange les mesures de radioactivité si jamais il y a quelque chose qui se passe.
Voilà, l'Ukraine a-t-elle perdu le contrôle du site de Tchernobyl? C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités de Kiev.
Il est 8h06, Florence, face au bombardement et à l'invasion, l'exode a commencé dès hier.
100 000 Ukrainiens ont déjà quitté leur foyer, selon l'ONU, et ils sont des milliers à passer les frontières pour se réfugier en Pologne ou en Hongrie. Bonjour Omar Waman.
Bonjour Florence.
Vous avez pris cette route de l'exode de l'Est en direction de l'Ouest. Vous êtes à 300 km de Kiev avec des gens qui partent, Omar, et qui ne reviendront pas dans une Ukraine contrôlée par la Russie, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Nous avons rencontré des déplacés internes qui seront, Florence, bientôt des réfugiés, hein, car ils ont pris la direction de l'ouest de l'Europe, vers la frontière roumaine, polonaise ou encore de la Moldavie. Des Ukrainiens qui ont tout quitté, tout perdu, tout laissé derrière eux, hein, en quelques heures, maison, travail, amis. En fait, ces Ukrainiens, eh bien c'est nous. Ils n'ont pas seulement fui les bombes qui s'abattent sur leur ville depuis hier. Ils ont également décidé de s'éloigner, de fuir l'avancée russe et la perspective de se retrouver piégés sous le contrôle de Moscou. Ces Ukrainiens ont goûté à la liberté, à la démocratie. Ils ne veulent pas vivre dans un état policier comme en Biélorussie, par exemple. Ils ont conscience que cette offensive militaire de Moscou est accompagnée d'une volonté de changer le régime à Kiev et donc de mettre fin à cette jeune démocratie. Par conséquent, il faut s'attendre à des flots de réfugiés. Kiev, la capitale, compte près de 3 millions d'habitants. Elle est actuellement le théâtre de violents bombardements. Il faut se préparer à l'accueil de ces Ukrainiens et le défi, Florence, est immense.
Omar Waman avec ses futurs exilés ukrainiens pendant que certains font le chemin inverse, comme cette enseignante qui a quitté Odessa dans le sud hier, direction l'Est. Elle veut rejoindre ses parents et participer à l'effort de guerre alors qu'elle aurait pu partir.
C'est possible, moi je peux partir avec ma famille, j'ai des amis en France avec qui je peux rester, mais je ne sais pas du tout vraiment parce que vous savez comment je peux me pardonner après que j'ai quitté mon pays dans ce temps. Je vais aller peut-être être une infirmière ou je ne sais pas, un volontaire, quelqu'un, parce qu'on doit protéger notre pays, on doit se battre quoi.
Voilà pour cette enseignante jointe par Olivia Chandiou devant cette guerre déclenchée comme un oukase de Vladimir Poutine. Et non, là, il en a choisi l'heure et la méthode sans aucun événement déclencheur. L'Occident se bat avec ses armes économiques. Américains et Européens ont dégainé de nouvelles sanctions contre les oligarques russes, contre le système financier, le secteur de l'énergie et des nouvelles technologies. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Vous avez suivi, Angélique, le Conseil européen qui s'est achevé au cœur de la nuit à Bruxelles.
Oui, il est encore un peu tôt pour mesurer l'impact réel de ces sanctions annoncées nuitamment, mais 70% du secteur bancaire russe sera impacté, a promis la présidente de la Commission. Il sera plus difficile pour les entreprises d'État et de défense d'emprunter sur les marchés, ce qui provoquera de l'inflation et sapera, dit-elle, progressivement la base industrielle du pays. Dans le secteur de l'aviation et de l'espace, 75% des pièces détachées proviennent d'Europe, des États-Unis, du Canada. Leur exportation va être collectivement bloquée. Dans le secteur de l'énergie, ce sont les raffineries de pétrole, machine à cash pour la Russie, avec 24 milliards d'euros engrangés en 2019, qui sont concernés par ces interdictions d'exportation de certaines technologies clés. Les Européens veulent aussi élargir la liste des oligarques sanctionnés qui ne pourront plus cacher, nous dit-on, leurs avoirs dans des villes européennes. Concernant les visas, diplomates et hommes d'affaires russes perdront enfin leur accès privilégié à l'Union européenne. Des mesures décidées avec les alliés, États-Unis en tête, a rappelé Ursula von der Leyen.
Notre unité est notre grande force. Le Kremlin le sait et il a fait tout son possible pour nous diviser. Mais c'est un échec. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Nous sommes aujourd'hui plus unis et plus déterminés que jamais.
La demande ukrainienne de bloquer l'accès de la Russie au système interbancaire SWIFT n'a cependant pas été retenue. Cette nuit, plusieurs États, dont l'Allemagne, très dépendante économiquement de la Russie, ont obtenu de garder cette mesure en réserve pour une éventuelle troisième salve de sanctions.
Angélique Bois, en direct de Bruxelles, où la France, de son côté, annonce qu'elle ajoutera ses propres sanctions contre des citoyens russes. Elle va envoyer 300 millions d'euros d'aide à l'Ukraine, ainsi que des équipements militaires. C'est Emmanuel Macron qui l'annonce, après avoir eu Vladimir Poutine au téléphone à la demande du président Zelensky, mais ça n'a rien donné, reconnaît le chef de l'État, trompé par son homologue russe qu'il avait reçu au Kremlin il y a moins de 15 jours.
Oui, il y a eu duplicité. Oui, il y a eu un choix délibéré, conscient du président Poutine, de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix. Dans ce contexte, la situation est celle que nous connaissons. Elle appelle d'abord un soutien inconditionnel au peuple ukrainien. Mais elle implique aussi de savoir garder les canaux ouverts pour que le plus vite possible, le cessez-le-feu puisse être décidé et les hostilités arrêtées. Car aujourd'hui, comme je le rappelais, ce sont des civils qui sont tués.
Voilà Emmanuel Macron sur les coups de 3h du matin à la sortie du Conseil européen de Bruxelles.
France Inter, 8h11, la suite du journal, Florence Paracuellos.
Avec un président très loin de la campagne électorale, loin du premier tour de la présidentielle le 10 mars. Une campagne presque gelée depuis hier. Consensus des candidats pour condamner l'agression russe. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron recevra ses prédécesseurs, Simon Le Baron, et s'adressera au Parlement.
C'est un moment solennel, prévu par la Constitution, mais très peu utilisé. La dernière fois, c'était en 2002. À 14h30, les présidents de l'Assemblée et du Sénat liront un message écrit par le président de la République. Un peu plus tôt, en fin de matinée, Emmanuel Macron recevra François Hollande, puis Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Union sacrée avec ses prédécesseurs, pas avec les candidats à la présidentielle. Le chef de l'État parle assez semblable. Il faudra bien qu'il entre à son tour en campagne la semaine prochaine, mais tout est en suspens. La déclaration, comment vendre une candidature optimiste en pleine guerre? Le premier déplacement, le premier meeting à Marseille, on réétudie tout, confie un ami. Le président devrait bien se rendre au salon de l'agriculture demain, mais moins longtemps que prévu, difficile de parler d'autre chose que d'Ukraine. Il ne pourra jamais faire campagne à 100%, anticipe un stratège. Mais il n'a pas l'intention non plus d'enjamber l'élection, assure un autre. Il ira quand même à la rencontre des Français, il présentera un projet, il fera des propositions. Autrement dit, le temps du débat viendra, mais à minima.
Simon Le Baron est passage obligé des candidats à la présidentielle en temps normal. Ce salon de l'agriculture sera de fait aussi perturbé vu les circonstances. Yannick Jadot, par exemple, annule sa visite. Et puisqu'on parle du salon de l'agriculture, il faut évoquer la flambée des cours des matières premières et de l'énergie hier. Le pétrole et le gaz se sont envolés avec le début de la guerre, comme les produits agricoles. La Russie est le premier exportateur mondial de blé, l'Ukraine le quatrième. Les agriculteurs français ont donc les yeux rivés sur les cours, Kathleen Comte.
Le blé qui dépasse les 300 euros la tonne, de quoi inquiéter les éleveurs français comme Isabelle Leballeur, installée près du Mans. Elle en achète pour nourrir ses poules.
Très concrètement, on a regardé les cours des matières premières, donc céréales, maïs, qui nous concernent pour nourrir nos animaux. En l'espace de quelques heures, c'est plus 50 euros tonne, ce qui est du jamais vu. Ça fait exploser notre coût de production.
Dans la volaille, l'alimentation, c'est 65% du coût de production. Alors chaque variation est un tremblement de terre pour les éleveurs.
À chaque fois qu'on fait une distribution d'aliments, vous mesurez en euros ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est clair.
Autre crainte, cette fois pour les céréaliers français. Henri Biesperé est basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est aussi vice-président de la FNSEA. Il a besoin d'engrais fabriqués avec du gaz russe.
Les marchés étaient déjà tendus. La Russie est un producteur exportateur d'engrais. La Russie exporte aussi du gaz et tous les engrais azotés sont issus du gaz. Ces prix-là vont s'envoler. Ils sont déjà multipliés par 3. J'ai acheté mon azote 750 euros la tonne quand je l'ai acheté 170 il y a un an.
La crise pourrait également avoir d'autres conséquences. L'Allemagne, par exemple, exporte ses porcs vers la Russie. Si le marché russe se referme, le pays pourrait réorienter sa production vers la France, synonyme de concurrence et de déséquilibre pour nos producteurs.
Voilà l'inquiétude des producteurs à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Enfin, du présent meurtrier aux aurores de la planète. Pas de bombe au Crétacé il y a 66 millions d'années, mais un astéroïde géant qui a mis fin fin au règne des dinosaures. Si on en parle ce matin, c'est qu'on sait à quelle saison s'est produit ce cataclysme. C'était à la fin du printemps, figurez-vous. C'est la découverte d'une équipe internationale permise grâce au synchrotron européen installé à Grenoble. Et connaître la saison a une importance capitale puisque ça donne des pistes pour comprendre pourquoi, après cette extinction massive des dinosaures, certaines autres espèces ont survécu et se sont développées sur notre planète. Sophie Becherel.
Ce sont des fossiles d'esturgeons et de spatulaires qui ont été ramenés du Dakota pour être passés aux rayons X, haute énergie du synchrotron de Grenoble. Cette machine permet de scruter la matière au plus profond, jusqu'aux cellules qui forment les os des poissons. Leur taille et leur forme renseignent sur la période de l'année. Les chercheurs ont donc découvert que tous les poissons étaient morts au printemps, explique Sophie Sanchez, co-auteur de cette étude et paléontologue à l'université d'Uppsala en Suède.
L'étude des os, c'est-à-dire la squelettochronologie, c'est un petit peu en fait comme les anneaux des arbres, ça donne la saisonnalité et on voit que tous les os, tous les squelettes des animaux qu'on a étudiés mouraient tous au même moment, c'est-à-dire à la reprise de la croissance rapide du squelette quand c'est la période du printemps.
Dans les branchies des poissons, de minuscules restes de l'astéroïde ont été visualisés, une autre preuve que les animaux ont été victimes de l'impact phénoménal de la fin du Crétacé. Et en connaître désormais, la saison a une importance majeure.
Dans l'hémisphère nord, en fait, c'était le printemps, donc du coup, ça va impacter toutes les espèces qui rentrent en reproduction à ce moment-là, qui est quand même la majorité des vertébrés sur Terre. Et dans l'hémisphère sud, on est dans une phase où on est à l'automne. Et donc, du coup, c'est quand même une période où les animaux vont faire des stocks pour pouvoir passer l'hiver et pour pouvoir rentrer en hibernation.
Outre sa taille, 10 km de diamètre, l'astéroïde, en tombant au printemps, a donc laissé peu de chance aux dinosaures.
Voilà, la fin du Crétacé, c'était donc il y a 66 millions d'années. Je vous laisse désormais, Nicolas, avec cette méditation.
Oui,
et
sur le temps long.
À vous le présent.
Hein. Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Marie-Pierre, il fait plus froid hein, ce matin.
Et oui Nicolas, car le vent a tourné au nord-ouest et c'est de l'air polaire maritime qui a envahi le pays. On a donc des gelées plus fortes, moins 4 à Romorantin, moins 3 à Nevers, comme sur les Ardennes, moins 2 à Guéret, moins 1 à Nantes ou à Orléans, un petit degré à Bordeaux, vous avez 3 à Paris, 12 à Calvi. Et côté ciel, on retrouve les nuages de la perturbation qu'ils évacuent par l'Allemagne, donc du nord-est au nord des Alpes, avec de la neige encore sur les Vosges jusqu'aux Alpes du Nord, sans oublier les Pyrénées aussi où il neige des 1000 mètres. En revanche, vous avez une matinée de plus en plus ensoleillée sur le reste du pays et du ciel bien bleu, même près de la Manche, sous un vent encore assez sensible. Et en Méditerranée, ce sera soleil sous le vent.
Et cet après-midi, pas beaucoup de changements.
Non, juste la neige va s'arrêter de tomber sur les Pyrénées car les éclaircies seront de plus en plus nombreuses. En revanche, encore quelques flocons sur les Vosges et le Jura. Le vent va se renforcer en Méditerranée jusqu'à 90 km par heure pour le Mistral et sur le reste du pays de belles éclaircies. Un ciel bien bleu le long de la Manche et dans une ambiance aussi plus fraîche, 10 seulement sur les côtes normandes, 7 à Langres, 8 à Nancy, 9 à Lille et au Havre, pas plus de 11 à Paris et Lyon, 12 à Brest, 13 à Bordeaux, 15 à Marseille et jusqu'à 17 à Montpellier.
Merci Marie-Pierre et merci à vous d'écouter Inter, il est 8h17.